Ici, nous aurons pris notre décision. Entre le chapitre 13 et le chapitre 14, nous avons pris la décision de suivre YHWH, c'est-à-dire de suivre celui qui est avec, et de nous contenter de voir qu'il marque le chemin avec sa colonne de nuée de jour et sa colonne de feu la nuit. Mais comme pour anticiper votre réaction, chapitre 14, verset 15, « Et le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi tu râles ?» Non, c'est ma traduction à moi. Hein. Bon. « Pourquoi m'appelles-tu à l'aide ?» C'est gentil, ça. Mais enfin, je ne suis pas contre. J'accepte volontiers la traduction de la Torah d'avoir un Dieu gentil. Mais il commence à s'énerver, Dieu. Il nous donne tout ce qu'il faut pour voir, et puis on ne voit pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Tout ça, ça va venir par la suite. On n'en est encore pas là. Alors, pourquoi tu cries ? Dis aux enfants d'Israël de se mettre en marche. Oui, ça c'est un bon truc. J'emploie toujours l'image du vélo. Si vous ne bougez pas quand vous êtes assis sur votre selle de vélo, vous avez toutes les chances de tomber. Il vaut mieux pédaler. Je vous rappelle que par la suite, Jésus a dit « Je suis le chemin ». Donc, mettez-vous en route. Il n'a pas dit « Je suis le but ». Jésus ne dit jamais qu'il est le but. Il nous adresse vers son Père. Alors, dit au fils d'Israël de se mettre en marche, de se mettre en route. Prends ton bâton. C'est un vrai bâton, hein. C'est le bâton du berger, c'est le bâton du montagnard, c'est le bâton de marche. C'est un vrai bâton. Prends ton bâton. Élève-le au-dessus de la mer. Attendez, c'est pas à ça que ça sert, un bâton. Faudrait pas confondre. Et pourtant, tu vas t'en servir. Dirige ta main vers la mer. Élève-le au-dessus de la mer. Ouvre ainsi un passage dans la mer. Juste entre parenthèses, chaque fois que vous avez à partir de maintenant le mot « passage », méfiez-vous, parce que c'est un mot qui va prendre beaucoup d'importance, parce que par la suite, on va célébrer le passage. Ça va devenir une fête, ça va devenir une fête annuelle, mais c'est un événement. C'est pour cela que dans la tradition juive et dans la tradition chrétienne, française, aussi bien juive française que chrétienne française, nous n'écrivons pas Pâques de la même façon. Les juifs écrivent toujours la Pâques, même si c'est une fête annuelle, mais c'est toujours le même événement. Les chrétiens, nous célébrons les Pâques, et en précisant même que tous les dimanches, c'est Pâques, dans la liturgie. Et Pâques, c'est la copie de Pessah, de Pascha en grec, de Pascha en latin, de Pâques en français. On a de la chance pour le français, parce que ni l'allemand ni l'anglais ne nous fait penser à passage. Alors qu'en français, la familiarité est immédiatement là. Alors, afin que les fils traverse à pied sec. Alors, je ne vais pas trop insister, mais Moi, je suis de la génération où on allait encore au cinéma, qui n'avait pas Netflix, et où on nous a sorti à Hollywood le plus célèbre des péplums bibliques, les 10 commandements de Cecil B. DeMille. C'était superbe. Je déchantais quand quelques temps plus tard, j'ai appris qu'on avait filmé les chutes du Niagara, puis on les a projetées sur des écrans à l'envers à Hollywood, et Charlton Heston a passé au milieu des chutes du Niagara qui étaient filmées à l'envers. Bon, moi je trouvais ça extraordinaire, hein, d'avoir un dieu qui arrive à faire des choses comme ça. Pour le gamin que j'étais, ça va aller très bien. Puis je relis le texte. Il passe la mer à pied sec. C'est pas la mer qui est sec, c'est leurs pieds. Alors si vous voulez vider la baignoire, comme pour les 10 commandements qui ont été filmés dans les studios d'Hollywood, moi je veux bien, mais ça poserait des problèmes. Et pendant que j'y suis là, juste pour vous taquiner un peu, parce que ça m'a tellement souvent amusé ce passage, que je me dis, je descendrai bien tout à l'heure, juste ici en bas, jusqu'au bord du lac, puis je vous dis, ça passe. Il y a qui me suit? Il n'y a personne parce que moi, j'oserais pas y aller. Et pourtant, ça a passé. Qu'est-ce qui a passé? Les fils d'Israël, ils sont passés où? La mer à pied sec. Comment? Chers amis, ne vous creusez pas la cervelle pour essayer de savoir comment ça s'est passé. Le texte, à l'évidence, veut nous dire, c'est pas possible. Vous ne le feriez pas en traversant entre Ouchy et Évian.
C'est là-bas.
C'est ça que le texte veut nous dire. Ils passèrent la mer à pied sec. Eh bien, ce n'est pas possible. Et vous continuez comment? Eh bien, ils se retrouvent de l'autre côté. Donc, ils sont passés. Mais je ne vous ai pas dit comment. Ah oui, à pied sec. Vous voyez, ça c'est très subtil. Mais vous pourriez expliquer ça à des gamins. Ils comprendraient. Ils ne chercheraient pas le guet éventuel qui se trouve en face de Ismaïlia aujourd'hui, au sud de la première partie du canal de Suez et avant la deuxième partie du canal de Suez. Mais non, chers amis. La traversée de la mer des gens, de la mer morte, de la mer rouge, vous l'avez aussi fait et vous êtes là. Et comment c'est passé? Vous en auriez des choses à raconter. Mais ce n'est pas vous. Vous êtes passé. On vous a fait passer. Et c'est ni Moïse ni son bâton, vous avez compris. Essayez avec votre bâton de faire la même chose. Prenez plutôt une navette entre Évian et Ouchy, ça va mieux qu'un bâton. Vous voyez, et nous n'avons pas le culot dans nos catéchèses de dire tout simplement, c'est pas possible. Et pourtant, plus tard, on entendra que rien n'est impossible à Dieu. Mais ne nous prenons pas pour celui qui est avec, pour celui qui nous précédait dans la colonne de nuée de jour et dans la colonne de feu la nuit. Non. Il nous a dit marche, ben on marche. Et ça passe. C'est extraordinaire. Et l'ange de Dieu, alors là c'est encore une nouvelle invention. L'ange de l'Élohim, parce qu'on a peur de faire à Dieu des choses trop anthropomorphiques, des choses qui ressemblent trop à des choses que nous savons faire, nous. Mais il nous explique avec nos mots à nous pour qu'on comprenne. Alors souvent, la Bible va employer un ange. Tout à l'heure, avant la pause, je parlais de ceux qui ont rendu visite à Abraham et auxquels Abraham a donné à manger. Mais ce n'est pas possible. Et vous expliquez comment le passage de l'Évangile où le ressuscité se trouve au bord du lac, il rencontre les disciples qui sont en train de crier du poisson et ils sentent bon. Et lui dit, je peux en avoir. Vous avez lu ce texte. Et vous savez qu'on lui a donné à manger. Il ne nous est pas dit qu'il a mangé. C'est comme Thomas. Mets ta main. Oui, mais il ne nous est pas dit que Thomas a mis la main. Vous voyez, il y a des silences qui sont importants. Parce que c'est notre vie qui va prendre place dans les silences. Alors, l'ange du Seigneur qui précédait les Israélites se place derrière leur camp. Et la colonne de nuée qui était devant passa derrière. Elle se place entre le camp des Égyptiens et le camp des Israélites. Et là, vous avez place pour toutes les catastrophes imminentes. Pas pour ceux qui annoncent les catastrophes, mais pour ceux qui les vivent. Ils sont coincés entre la mer devant et les ennemis derrière. Et les ennemis, on les a plusieurs fois présentés comme le Pharaon, ses chars et ses armées. Et voilà que, verset 22, et les fils d'Israël traversèrent la mer à pied sec. Ils traversèrent à pied sec la mer. Mettez ça dans l'ordre que vous voulez. De toute façon, moi, je m'y risque pas. Hein. Et tout à l'heure, vous n'avez pas répondu. Oui, oui, on vous suivrait quand vous êtes à Ouchy. Prenez un pédalo, mais n'essayez pas. Et le Seigneur fit souffler un fort vent d'est. Demandez à un météorologue spécialiste des vents du Proche-Orient. Il n'existe pas de vent d'est. Pour une raison très simple. À l'ouest, vous avez la mer qui a une certaine température. À l'est, vous avez le sable qui a une autre température. Et la différence de température fait que tous les vents soufflent d'ouest en est. Encore un truc qui n'est pas possible. Si je suis au milieu du désert, si je suis dans le delta du Nil, si je suis même plus avant, à l'intérieur du Sinaï, et que je lis un texte comme ça, je dis, mais il se trompe. Il ne peut pas y avoir de vent d'est. Je vais vous donner une autre image. Il circule d'où à où Moïse avec les fils d'Israël. Ils sont à l'ouest et ils passent à l'est. D'accord? Donc, vous avez un fort vent d'est qui se lève et les fils d'Israël qui sont les premiers à entrer dans la mer, ils en prennent plein le baba. Ça ne va pas. Si vous videz la baignoire, videz-la dans le bon sens. Et ne la videz pas contre vous. Bref, tout ça pour nous dire, attendez, attendez, vous voyez bien qu'il se passe quelque chose qui nous échappe complètement. Et c'est lui. Et les Israélites traversèrent la mer à pied sec. De chaque côté d'eux, l'eau formait comme une muraille. C'est presque dommage parce qu'il aurait fallu mettre à gauche et à droite. Or, gauche, c'est l'Orient, c'est le midi, c'est le nord. À droite, c'est le sud. Autrement dit, ils entrent dans le sens de leur marche d'ouest en est avec comme protection une muraille d'eau. Je ne sais pas très bien comment c'est une muraille d'eau, mais ça doit être difficilement franchissable.
On va voir le film.
Oui, justement, les 10 commandements, ça me plaisait bien parce que c'était les chutes du Niagara.
Oui, mais c'était finalement, ils n'ont pas eu tout tort, Hollywood. Enfin, ils ont figuré comme ils le pouvaient. Hein. Moi, je le vois comme ça aussi. Mais oh. Évidemment, on est dans un texte qui appelle, bien sûr, plus de réflexion.
Je n'impose pas du tout ma lecture, je la propose. 23. Et les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, avec ses chars et ses cavaliers, pénétrèrent derrière eux dans la mer. Et maintenant, sortez vos montres. Ça se passe quand? Déjà qu'on ne sait pas où ça se passe, mais au moins, est-ce qu'on saura quand ça se passe? Oui, chers amis, ça se passe entre il y eut un soir, il y eut un matin. Car le petit refrain, nous le connaissons, pas seulement celui de la Genèse. C'est un refrain qui va rythmer la vie du peuple d'Israël et qui la rythme encore aujourd'hui. C'est un refrain qui rythme la vie des religieux et des religieuses, par exemple dans leur couvent. La journée, elle commence au coucher du soleil. Elle se finit au lever du soleil. Et la journée, elle est donc entre coucher du soleil et lever du soleil. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Au coucher du soleil, on va se coucher. Il nous faudrait vivre une semaine dans un couvent de contemplative et voir combien le rythme change quand on commence par aller se coucher. Il y a la dernière prière du jour d'avant et vous commencez la nuit. Et vous faites quoi pendant la nuit? Je vous souhaite de dormir. C'est en tout cas pas vous qui menez la barque. Si vous avez besoin d'un psychanalyste, il vous expliquera que inconsciemment, c'est peut-être vous quand même qui vivez vos fantasmes pendant la nuit. Mais tout va se passer pendant une nuit. Et le chapitre 24 est à la première veille de... Pourquoi est-ce que la Torah a mis la fin de la nuit? Ça ne correspond pas à ce que le texte veut nous dire. Il veut nous dire, et quand le matin commence, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième jour. Et ça, c'est une aventure qu'on connaît bien dans le peuple d'Israël, qu'on va renouveler quand il s'agira de passer non plus la mer Rouge, mais le Jourdain, et qu'on va se trouver en face de Jéricho. Et c'est là que je corrige toujours le texte de Josué. Et Josué est les prêtres, puis toute l'armée, puis, non, mais lisez le texte, après avoir vécu une fête Dieu à Saviez ou dans le Chental. Vous avez déjà vu une armée, vous, avec les aumôniers de l'armée en tête de file? Moi pas. On ne met pas les aumôniers devant. Autrement dit, ce n'est pas une marche militaire, c'est ce que par la suite on va fêter avec la Simrat Torah, ou tradition catholique encore valable dans certains de nos patelins, la fête Dieu. On balade Dieu dans le village. Ils firent le tour, ils rentrèrent au camp. Et moi, je rajoute, premier jour, puis deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, et septième jour, ils firent 7 fois le tour. Et à ce moment-là, je remercie le gars qui m'a valu mon premier billet gratuit jusqu'aux États-Unis, parce que j'ai été invité comme membre du jury d'une thèse d'un gars qui faisait son doctorat en physique. Mais une des démonstrations de sa thèse, c'était que certains bruits, comme par exemple les trompettes, peuvent desceller des murs et les faire tomber. Et le physicien qui recevait la thèse, que je connaissais parce qu'on s'était rencontrés à Jérusalem, m'a dit, si ça t'intéresse, je te paye un mois chez nous, tu viens lire les 600 pages de sa thèse, et puis tu es le théologien qui va répondre qu'en effet, l'exemple des trompettes montre bien que le mur est tombé. Alors j'ai accepté et le billet d'avion et le séjour, je me suis farci les 600 pages de sa thèse dont je ne comprenais rien, au moins pour les trois quarts parce que c'était physique, pour tout simplement dire, quant aux trompettes de Jéricho, c'est notre prière qui décèle les murs, ce n'est pas des trompettes, et ce d'autant plus que le mot hébreu qui est choisi ne vous renvoie pas du tout à la garde républicaine à 14 juillet à descendre les Champs-Élysées. Le mot c'est chauffard. Et les chauffards, c'est la corne de bélier qu'on emploie pour annoncer le début du Shabbat. Ce sont les cloches de nos églises, quand elles ont encore le droit de sonner. Voilà, donc nous sommes face à une situation où il faut raconter l'histoire parce qu'elle est merveilleuse, puis en même temps, il faut être prudent. Non, la Bible ne dit pas vrai. Pas pour des hommes et des femmes du 21e siècle. Mais elle dit vrai si vous lisez ça comme prière. Oui. Est-ce que nous sommes convaincus que quand il est avec nous, même les ennemis s'embourbent? Alors, il figea les roues des chars, les faisant rouler pesamment. Alors les Égyptiens dirent, fuyons devant Israël, car, et on a raison, le Seigneur, oui, c'est Yud-Heh-Vav-Heh, c'est celui qui est avec, c'est le Seigneur combat contre nous, avec les Égyptiens. Et puis ensuite, il faudrait expliquer ça, et pas seulement aux enfants, aux critiques que nous sommes. Alors on va l'imager. Les roues des chars faisaient rouler pesamment. Ils étaient empêtrés. Et les Égyptiens eurent peur. On pourrait encore développer ça de multiples façons. Verset 26. Yud-Heh-Vav-Heh, le Seigneur qui est avec, dit à Moïse, étends ton bras au-dessus de la mer pour faire revenir l'eau sur les chars, sur les cavaliers égyptiens. Tu as ouvert et maintenant il s'agit de fermer. Et pour ça, il faut un bâton. Vous voyez combien c'est compliqué d'expliquer que c'est le bâton qui ouvre et c'est le bâton qui ferme. Mais il faudra un bâton. De même que pour Élie, il faudra un manteau. Sauf qu'au moment où il s'envole, le manteau reste là. Et les rabbins vous expliquent que leur manteau, il faudra qu'Élie vienne le rechercher. C'est pour cela qu'il n'y a jamais une assemblée sur un texte biblique sans une chaise libre. Parce que quand Élie reviendra, il faut qu'il ait une place. Et dans toutes les fêtes célébrées dans les familles juives, il y a toujours une chaise vide pour Élie. Parce qu'il vient rechercher son manteau. Vous voyez, ça nous fait sourire, mais en même temps, c'est merveilleux. Parce que si vous expliquez ça aux enfants, vous n'allez pas d'abord leur dire c'est Élie qui vient chercher son manteau. Vous allez d'abord leur dire, il manque quelqu'un, mais quand il viendra, il y a de la place. Est-ce que dans nos assemblées, nous sommes conscients qu'il manque toujours quelqu'un, mais sa place est réservée? Vous voyez, toutes ces images, prenons-les au sérieux, mais essayons de les appliquer dans notre quotidien. Moïse étendit son bras au-dessus de la mer. Le matin était là. Et la mer reprit sa place habituelle. Alors maintenant, si vous avez opté pour une muraille d'eau d'un côté, une muraille d'eau de l'autre côté, alors les deux murailles, elles se ferment. Si vous avez opté pour le vent qui chasse d'un côté, comme le vent arrête de chasser, c'est l'eau qui revient. Mais c'est deux images que vous ne pouvez pas tenir ensemble. C'est ou l'une ou l'autre. C'est égal, de toute façon, dans notre vie, les empoisonnements, on les a hein, dans tous les sens, que ça nous vienne de gauche ou de droite, ou dessus, en dessous. Et les Égyptiens qui s'enfuyaient se trouvèrent soudain face à l'eau, l'hébreu dira sous l'eau, et le Seigneur les précipita dans la mer. Et l'eau recouvrit tous ses chars, et les cavaliers, et toute l'armée de Pharaon qui avait poursuivi les Israélites dans la mer. Personne n'échappa. Je vous souhaite de vivre un jour en Égypte, dans une communauté copte, ce passage, et de les entendre dire « et pas un n'échappa ». Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Et dès la première fois, j'étais bousculé. Et je me disais, mais tous ceux qui sont là, c'est tous des Égyptiens. Alors je leur ai posé la question et ils m'ont répondu, ah non, 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 mais ce n'est pas les mêmes Égyptiens, ce n'est pas les Égyptiens d'aujourd'hui. Heureusement. Mais je ne suis pas sûr que tous les Égyptiens disent la même chose. Et il y a des Égyptiens coptes qui se demandent bien pourquoi est-ce que pas un n'échappa. Et je n'ai pas de réponse, chers amis, mais ne gommons pas le texte. Dieu est avec nous. Il nous sauve. Et qu'est-ce qu'il fait des autres? Nous balbutions des bouts de réponse. Parce que nous balbutions au nom de notre foi d'un Dieu miséricordieux, d'un Dieu qui est amour. Mais qu'est-ce que vous faites d'un Dieu vrai? Il ne peut pas reconnaître dans un assaillant un bienfait. Il ne peut pas dire d'un violeur. Et qu'est-ce qu'il dirait du violé? Il y a des textes terribles dans la Bible et incontournables. Demandons plutôt au souffle de l'Esprit de nous permettre de comprendre ce que je ne comprends pas et ce que je ne peux pas comprendre. Car si Dieu est bon, il est Dieu pour tous, il est avec. Alors, quelle pourrait être la différence? Tout à l'heure, on va faire la pause et puis pendant la pause, on pourra peut-être échanger. Parce qu'on a chacun des bouts de réponse, je sais. Mais je revendique le droit de lire le texte pour ce qu'il veut me dire. Pas un n'échappa. Est-ce que je suis convaincu du droit de Dieu de faire ce qu'il veut? Oui, si je continue de prier que ta volonté soit faite. Oui, si je continue de croire qu'il est avec. Mais qu'est-ce que je dis aux Marocains qui ont vu toute leur région détruite par un tremblement de terre, aux Libyens qui ont vu des catastrophes avec les inondations, à tous ceux qui subissent la guerre? Et pas un n'échappa. Voyez, j'hésite toujours à m'arrêter sur ce petit verset. Parce que je crois tellement en la bonté de Dieu que je crois encore plus en sa miséricorde. Et j'aime ce mot parce que je me saucissonne en petit bout. Hein. Misericordia, la miseria in corde, la misère dans ma misère, je ne sais pas quoi en faire, mais je peux la lui donner. Et il la prend dans son cœur. Mais je ne serais pas honnête si je passais trop vite sur pas un n'en échappa. Voilà, je vous propose juste de terminer cela, comme ça on peut faire quelques minutes de pause, et avant le repas, on mettra encore une quatrième célébration, mais ce n'est pas pour contourner le verset. Et je ne serais pas honnête si je sautais ce verset. Et les Hébreux ont gardé ce verset. Et méfions-nous de tous ceux qui disent « Ben, c'est normal, Dieu est de notre côté, c'est la moindre des choses. » Mais ce Dieu qui serait de notre côté, comment peut-il être contre? Alors d'accord, c'est Pharaon, c'est ses chars, c'est ses armées. Et dans la tradition catholique, le vendredi saint, on aime bien chanter « Il a jeté à l'eau cheval et cavalier ». Oui, bon. Je ne suis pas un cheval et je ne suis pas un cavalier. Mais ça ne m'empêche pas de prendre les chevaux, les cavaliers et les armées, au moins pour les confier à Dieu et me réjouir du jour où je comprendrai ce verset. Et je termine. Verset 29. Quant aux fils d'Israël, ils avaient traversé la mer à pied sec, l'eau formant comme une muraille de chaque côté d'eux. Là encore, l'hébreu est plus concret. À droite, c'est le sud. À gauche, c'est l'Orient. C'est pour ça qu'il faut s'orienter et que nos boussoles montrent toujours le nord. Et quand on est désorienté, c'est qu'on ne sait plus où est l'Orient. Et on termine. Verset 31. Et les fils d'Israël virent avec quelle puissance le Seigneur était intervenu contre l'Égypte. Et je profite juste de rajouter, c'est quoi la puissance de Dieu? Nous avons souvent dans nos prières, l'apostrophe à Dieu en disant qu'il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Oui, c'est une traduction du latin omnipotens, qui est une mauvaise traduction du grec pantokrator. Le pantokrator, c'est celui qui rassemble tout. Le cratère, ce n'est pas en grec le mot pour employer un cratère de volcan, mais un cratère pour boire, qui rassemble toutes les odeurs que l'on hume avant de goûter un bon vin. Qu'est-ce que je mets sous le mot puissance? L'hébreu, qui est toujours très concret, puisque je vous ai dit en début de journée que l'hébreu ne peut pas dire des abstractions, l'hébreu cherche à manifester de façon très concrète la puissance. Et alors il met le mot lourd. La puissance, ça a du poids. Est-ce que ma parole a du poids? Est-ce que ma vie a du poids? Le latin, qui est très vite devenu impérialiste, n'a pas compris cette notion. Et donc, dans la gloria, il nous amène plutôt à penser à la luminosité que produit le vainqueur, c'est souvent l'empereur ou c'est son général en chef, et qui vient à Rome pour une journée de triomphe. Alors, bien évidemment, ce jour-là ne peut avoir lieu qu'un jour de soleil. Pourquoi ? Parce que pour défiler à la tête de ses troupes, le général en chef ou l'empereur va passer au Sigolin sa cuirasse. Et s'il n'y a pas de soleil, elle ne va pas resplendir. S'il y a du soleil, tout le monde va être ébloui parce que la cuirasse va renvoyer la gloria de l'empereur et donc les gens qui sont de chaque côté sont éblouis. Ah, ça me rappelle Moïse quand il redescend de la montagne. Il éblouit les gens. Mais ce n'est pas de sa gloire à lui, c'est de la gloire de Dieu. Donc on a des déviations à partir de mots tout simples, comme par exemple la gloria. L'hébreu me dit, ça a du poids. Est-ce que Dieu dans ma vie a du poids? Et vous voyez, j'aime bien toutes ces expressions qui ne sont pas univoques. L'hébreu raffole de cela. Autrement dit, ce n'est pas tout blanc ou tout noir. La gloire, si c'est le poids, ça peut être écrasant. L'eau, si c'est une tempête, ça peut être destructeur. Le feu, ça peut détruire. Toutes ces images que la Bible nous donne, vous ne pouvez pas dire elles ne sont que positives. Elles sont positives et négatives. Et donc c'est moi, encore une fois, qui ai la liberté de voir. Est-ce que la gloire de Dieu m'éblouit? Eh bien, je m'arrange pour ne pas voir la gloire de Dieu quand je suis au volant de ma voiture. Et moi qui fais très souvent la route entre Fribourg et Lausanne, je vous rappelle qu'à partir de Bulle, il y a une heure où il ne faut pas circuler sur l'autoroute. Parce que vous avez, surtout à cette période de l'année, vous avez exactement en face de vous le soleil qui se couche. Et du coup, vous ne voyez rien du tout. Alors, ou bien vous renoncez à la gloire, ou bien vous choisissez une autre heure. Et ça n'allait pas beaucoup mieux ce matin en descendant le toboggan. Juste en arrivant à Châtel-Saint-Denis, le soleil se levait derrière moi et je l'avais dans le rétroviseur. Et c'était pire parce qu'il m'éblouissait. C'est ma liberté de choisir de ne pas venir à un moment où je ne pourrais être qu'ébloui. Vous vous rendez compte, notre responsabilité, c'est de choisir un lieu sans parole pour être capable d'entendre la parole.